Cause à effet, le magazine de l'environnement.
De la terre à l'assiette, la viande est-elle climato-compatible ? Selon le dernier rapport de Greenpeace, intitulé « Mordu de viande », l'industrie du soja a plus que doublé en 20 ans, répondant en cela à une demande mondiale d'aliments destinés aux élevages industriels. Alors même que dans certains pays, comme la France, une tendance à limiter l'apport en viande dans les pratiques alimentaires semble se faire jour. Ainsi, en 10 ans, la consommation de produits carnés a baissé de 12%. Mais parallèlement, le boom de la production du soja interpelle et n'est pas sans conséquences pour la planète, pour les écosystèmes et par ricochet pour le réchauffement climatique. Une agriculture qui questionne donc aujourd'hui nos besoins de viande, jugés par de nombreux chercheurs et spécialistes comme excessifs. Où en est-on de cette consommation de viande en France et ailleurs? Quelles en sont les conséquences à l'échelle de la planète? Quel modèle d'élevage devrions-nous promouvoir dans ce contexte de changement climatique? Viandard ou pas, quelle est cette bascule qui est en train de redessiner le monde de demain? Avec nous, trois spécialistes. Suzanne Dalle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de campagne agriculture chez Greenpeace France, co-auteur du rapport Mordu de viande, l'Europe alimente la crise climatique par son addiction au soja. À vos côtés, Brigitte Picard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'unité mixte de recherche sur les herbivores de l'INRA et co-auteur du livre La viande de l'élevage à l'assiette, un livre édité aux presses universitaires Blaise Pascal. Et avec nous également Gilles Davaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formateur, auteur et conférencier, spécialiste de cuisine biologique et alternative et auteur du livre « Manger moins et mieux de viande », un livre en coédition avec Kézen et Actes Sud. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au programme « La viande ». Et pour cette émission, toujours en partenariat avec la rédaction des pages Planète Sciences du Monde, préparée par Anaï Morales, avec nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. L'émission toujours réalisée bien sûr par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Emmanuel Morse-Duncan.
L'Amazonie, le Grand Chaco ou encore le Cerrado, tous ces massifs forestiers d'Amérique du Sud souffrent aujourd'hui de notre appétit pour la viande, selon ce rapport, puisque nous importons du soja produit là-bas pour nourrir principalement nos poulets, explique Cécile Lebas de Greenpeace France.
On n'en est pas forcément conscient aujourd'hui, mais quand on mange du blanc de poulet, on mange aussi le soja qui a servi à nourrir ce poulet. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour produire 100 grammes de blanc de poulet, il faut 109 grammes de soja. On a fait des calculs à Greenpeace et on s'est rendu compte que si on voulait produire la totalité du soja dont on a besoin, il faudrait à peu près dédier la superficie de la Belgique et de l'Autriche réunies pour pouvoir produire le soja qui viendrait nourrir ces animaux d'élevage. Donc de toute façon, il faudra passer par une réduction de la consommation de viande et de produits laitiers.
Par exemple, en France, nous consommons aujourd'hui près de 90 kg de viande par an et par habitant en moyenne. L'ONG estime qu'il faudrait atteindre 16 kg en 2050, c'est-à-dire à peu près 45 grammes par jour, pour respecter notamment l'accord de Paris sur le climat.
Suzanne Dalle, on entendait votre co-auteur, hein, Cécile Lebas, dans ce reportage diffusé sur France Info le 11 juin dernier, au micro de Anne-Laure Barral. Donc ce rapport de Greenpeace sur cette production donc de soja pour nourrir les animaux d'élevage, et donc une production qui a notamment de graves conséquences sur les écosystèmes, on l'entendait, hein, notamment au Brésil, en Argentine et aux États-Unis. Peut-être quelques chiffres à rappeler. En 1997, donc cette production de soja représentait 144 millions de tonnes. Aujourd'hui, 352 millions, on est dans une totale démesure.
Alors effectivement, c'est des chiffres qui sont alarmants. Et le problème, c'est aussi qu'on constate que cette déforestation, elle va se reporter de zone géographique en zone géographique. Ça a commencé avec l'Amazonie brésilienne, qu'on a réussi à protéger en tout cas au moins partiellement à l'aide d'un moratoire. Mais au final, cette problématique de déforestation et de destruction d'écosystèmes s'est reportée sur le Chaco et sur le Cerrado, qui ont des écosystèmes qui sont également extrêmement précieux. Tout ça dans un système soja qui va aussi avoir d'autres effets négatifs sur les populations.
Accaparement des terres de populations autochtones, c'est ça ?
Tout à fait, sur l'accaparement des terres, mais aussi sur l'usage des pesticides. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le soja qui est cultivé là-bas, c'est fait dans des monocultures de taille gigantesque qui sont aspergées de pesticides, notamment de glyphosate. Et si on regarde par exemple le Brésil, Brésil, un tiers des pesticides qui sont utilisés ne sont pas autorisés aujourd'hui en Europe. Donc on voit aussi vraiment un double standard qui questionne énormément.
Et en sachant qu'on utilise aussi du soja OGM, donc on peut effectivement être interpellé, Suzanne Dahl, par le fait que ces variétés de soja, donc génétiquement modifiées, cultivées au Brésil ou en Argentine, ne sont pas autorisées en Union européenne. C'est le cas de plus d'un tiers, je crois, des pesticides. Et malgré tout, ben, on récupère ce soja qui arrive chez nous.
Alors, on le récupère et... L'erreur, ça serait justement de se dire, eh ben, on va cultiver tout ce soja nous-mêmes, puisque, comme le rappelait ma collègue Cécile Lebas précédemment, ça ne serait pas possible. Elle évoquait des chiffres sur l'Europe, mais sur la France, ce serait exactement la même problématique. Ça voudrait dire de multiplier par 8 les surfaces qui sont aujourd'hui consacrées au soja. Et peu importe si on fait du colza, en réalité, on n'a pas des terres agricoles qui sont suffisantes par rapport à nos niveaux de production actuels. Donc, il y a vraiment un besoin de réduction de cette production de viande, d'œufs et de produits laitiers. Et si on a cette réduction de la production, en revanche, on a des solutions pour pouvoir avoir un élevage écologique qui sera autonome et économe. Et alors, on pourra avoir des élevages qui seront réellement nés, élevés, mais aussi nourris en France.
Gilles Davot, il y a aussi des chiffres qu'on peut donner effectivement à l'échelle de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne importe 33 millions de tonnes de ce soja chaque année. C'est le deuxième importateur après la Chine. Et donc, 87% sont destinés à l'alimentation animale. Et pour la France, donc, entre 3,5 millions et un peu plus de 4 millions de tonnes par an, cette démesure, vous en parlez aussi dans votre livre.
Ben oui, c'est une. Quand on est né à partir des années 60, on a grandi dans ce monde où la viande est quotidienne. Dans les cantines, où je me trouve souvent, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est viande, saucisse, poulet, escalope, viande en sauce. Et comme c'est tous les jours, c'est acheté au plus bas prix. Et c'est ces plus bas prix qui sont corollaires en fait de ces systèmes de production où on produit de la protéine végétale de façon déjà avec des agricultures industrielles. Et quand on parle du soja, on pense évidemment à la déforestation de la forêt, mais on pense pas aux engrais azotés qui sont gros producteurs de gaz à effet de serre qu'on met dans nos cultures de céréales en France pour faire des protéines animales à pas cher. Et du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on a vraiment gagné quand la viande a pris une telle place? Est-ce qu'elle n'a pas perdu la valeur symbolique qu'elle a dans l'esprit de presque tous en France, hein, parce que ça reste un aliment chéri par une très très grande majorité de la population, sauf que quand ça devient banalisé, associé à une très basse qualité, que beaucoup, et puis des suspicions de plus en plus importantes, et chez les jeunes, cette espèce de refus de la souffrance extrême rendue visible dans les vidéos, on se demande si on a vraiment fait un progrès et si on n'a pas une perte de sens fondamentale de ce qui pourrait faire notre relation à l'animal. Voilà, donc c'est à ces questions-là qu'on est confronté et qu'on ne peut pas répondre de manière binaire avec de la viande ou plus de viande. Il faut accompagner un changement qui fait que chacun peut trouver sa propre capacité d'évoluer pour contribuer à la transition générale.
Brigitte Picard, il faut faire attention, on parle bien sûr de ces élevages, donc les élevages industriels qui sont pointés du doigt, mais attention à ne pas confondre avec les petits éleveurs, c'est important aussi de le préciser, distinction à faire, car aujourd'hui, ces petits éleveurs, je crois qu'ils tentent de faire leur travail de belle manière, si on peut parler ainsi, en tout cas, qu'ils tentent de faire leur travail au quotidien, ne demandent qu'à mieux travailler aussi, à mieux vivre et se sentent pris dans ce débat difficile concernant la viande.
Oui, absolument. On est confronté à ces réactions des éleveurs avec qui on travaille et pour qui on travaille aussi. L'INRA travaille pour l'élevage aussi et pour les consommateurs et tous les citoyens. Et je voulais rebondir par rapport au soja et la viande de l'association Soja Viande. En fait, toute la viande n'est pas produite avec du soja et il faut quand même savoir que c'est surtout les volailles, comme ça a été dit dans le reportage. Il y a aussi, notamment, moi je représente ici avec le livre écrit, je représente la filière plutôt viande bovine, viande de ruminant et plutôt viande bovine. Et effectivement, il faut savoir que quand même l'alimentation des bovins pour la viande, c'est 80% d'herbes, de fourrage. Donc on est loin quand même des apports de soja. Donc attention à ne pas faire l'amalgame entre viande soja obligatoirement et entre élevage intensif et viande. Parce qu'il y a des élevages intensifs, mais il y a aussi des élevages extensifs. Comme vous le disiez, il y a des petits élevages aussi qui utilisent essentiellement l'herbe. Et l'objectif de l'INRA, c'est aussi de développer des élevages qui sont respectueux de l'environnement, du bien-être, qui répondent à toutes ces questions-là, et de favoriser l'utilisation de l'herbe sous toutes ses formes et de diminuer fortement les apports supplémentaires en concentré et autres, et surtout d'utiliser une alimentation pour les bovins qui ne soit pas concurrentielle avec celle de l'homme.
Alors malgré tout, il y a effectivement, on sent, c'est un système à revoir qui n'est plus soutenable tel qu'il est aujourd'hui, mais un système complexe avec différents types d'élevage. Il y a des chiffres qui sont quand même fournis. L'élevage émettrait 14,5% de gaz à effet de serre, donc plus que le secteur routier selon le cinquième rapport du GIEC. Gilles Davot, Suzanne Dalle, peut-être sur ce terrain-là, c'est aussi le fait que les élevages sont pointés du doigt pour la production de gaz à effet de serre.
Alors effectivement, c'est bien ce chiffre de 14%, c'est autant que le secteur des transports, c'est vraiment très conséquent. Mais c'est aussi un secteur dans lequel on a des marges de manœuvre qui sont importantes. Sur le soja, effectivement, ça va être consommé davantage par les porcs et les volailles. En revanche, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, le secteur qui va avoir le plus d'émissions directes, et y compris en France, ça reste de très loin le secteur bovin. C'est pour ça aussi qu'il y a un intérêt à parler d'élevage industriel dans sa globalité, et lorsqu'on parle de réduction de la consommation de viande, de parler de toutes les viandes et de trouver des alternatives pour toutes ces filières, parce que chacune d'entre elles va présenter des impacts négatifs, mais aussi bien sûr certains impacts positifs.
Petite question quand même, la consommation de viande en France, elle se situe à quel niveau aujourd'hui ?
On est actuellement à 46 grammes par jour en moyenne, et on est passé de 58 grammes par jour à 46 grammes par jour en 10 ans. Et la moyenne mondiale, elle est autour de 42 grammes par jour. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que si on fait le lien avec viande et santé, d'une façon générale, il y a des recommandations...
Parce qu'il y a le problème de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète.
Diabète. Oui, alors ça, on pourra y revenir pour préciser des choses. Mais en gros, ce qui est préconisé, c'est une consommation inférieure à 500 grammes par semaine, pour ce qui est de la viande rouge en particulier, et inférieure à, je crois, 150 grammes de charcuterie. En fait, par rapport à la viande rouge, on est plutôt actuellement à 240 grammes par semaine en moyenne. Donc on est quand même en dessous des seuils à risque. Donc malgré tout, on n'est pas sur des consommations hyper excessives comme on peut le penser.
Gilles Davot.
Les positions en fait souvent radicales qu'on voit qui bloquent un peu le sujet.
Oui, sujet tabou quand même.
Aussi à notre méconnaissance. On a grandi hors sol un peu dans les villes et on connaît très mal l'élevage. On ne sait pas bien dans le très grand public en fait l'intérêt des herbivores. Y compris quand on parle des herbivores qui vont à l'air. Alors, il est vrai qu'ils respirent et qu'ils dégagent des... On sait qu'on a des émissions aussi de méthane importantes avec les gros herbivores. Mais on sait peut-être moins que quand on a des systèmes extensifs à l'herbe, on a des tondeuses sans pétrole. Et chaque fois que l'herbe va repousser, elle va capter du carbone. Et que sinon, quand c'est des volailles, c'est-à-dire des monogastriques, des volailles ou des porcs, pour qui il faut cultiver... c'est-à-dire dépenser du pétrole, cultiver des terres pour donner de quoi manger. Et on a besoin en fait de discuter de tout ça. On va avoir des productions agricoles qui sont des protéines végétales pour donner à des animaux pour finalement avoir un bilan assez mauvais du rendement investi pour la qualité et la quantité nutritionnelle produite. Du coup, ça questionne finalement... Quand on regarde un petit peu plus en détail les impacts de chaque chose, comment d'entendre, écouter aussi parler les éleveurs sur leur façon de faire, quels seraient les modèles un peu intéressants entre l'agriculture et l'élevage sur des territoires locaux où on pourrait avoir des volailles, des porcs, une utilisation des déchets alimentaires pour les nourrir et puis des herbivores dans des systèmes durables qui vont peut-être aussi... sans utiliser le tracteur, permettent d'éviter, quand ils vont être dans un champ, fertiliser le champ, éviter qu'on passe le tracteur et, ce faisant, tuer des milliers de musaraignes, de crapauds, de vies sensibles. Et souvent, dans l'approche purement antispéciste et tout ça, on n'a pas cette vision en nuance. Donc, quel serait le modèle ? C'est un peu le défi auquel on est confronté. Et on y est, au fond, confronté par notre façon de concevoir nos repas.
On va en parler plus avant, bien évidemment. Je vous propose juste d'écouter ce reportage diffusé sur France Inter le 14 juin 2018. Et ensuite, je vous donne la parole, Brigitte Picard.
60 hectares de prairies, rien que pour elles. Les 100 vaches de Guilin de Viron ont de la place et de l'herbe à digérer.
En digérant, elles émettent du méthane, qui est un gaz à effet de serre.
Pour compenser en partie ces émissions, l'éleveur belge devenu sartois profite d'abord des pièges naturels à carbone.
Là, on a des petits chênes qui poussent. Donc on laisse pousser quelques arbres, on conserve les prairies, les haies. On a 20 km de haies, donc on stocke beaucoup de carbone comme ça.
Mais le président de la section laitière de la FDSEA ne s'arrête pas là. Grâce à un pré-refroidisseur de lait, il réduit sa consommation d'électricité. Ses panneaux solaires produisent autant qu'il consomme. Et avec l'épeautre planté pas loin de son maïs, il limite les achats et donc le transport d'aliments pour ses bêtes.
Hé, petit joli, c'est l'heure de manger. Alors là, c'est un mélange de maïs, de colza, tout au-delà. Et puis, il y a de l'épeautre. Avant, on achetait un aliment complet, un peu comme celui-ci. Maintenant, on fait toujours venir un petit peu d'aliments, mais par contre, l'épeautre est produit sur place. Et dans le mélange qu'on utilise, c'est 50%.
Et promis, ça ne lui coûte pas plus cher.
C'est ça qui est génial. On a tous à y gagner, l'environnement et le portefeuille.
La filière l'assure, si les 58 000 fermes laitières de France s'y mettent, on pourrait économiser 2 millions de tonnes de CO2 d'ici 10 ans.
France Culture, de cause à effet. Le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Voilà, c'était ce témoignage d'un éleveur de la Sarthe engagé dans l'objectif bas carbone. Brigitte Picard, vous vouliez réagir.
Je voulais réagir sur les chiffres par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et la comparaison avec les transports. Donc en gros, ce qui est dit par le rapport de la FAO et par les différents calculs qui sont faits, l'élevage produit effectivement environ 16% d'émissions directes et indirectes. Donc direct lié à l'animal et indirect lié tout ce qui est autour de la ferme.
Mmh. 16% en France.
16% en France et on dit les transports. 14%. En fait, il faut quand même savoir que ces chiffres ne sont pas complètement comparables parce que c'est pas du tout les mêmes critères qui sont pris dans les calculs. Et si on prenait exactement les mêmes calculs, on arriverait à 16% toujours pour l'élevage, mais à 27% pour les transports. Et j'ai un collègue qui a l'habitude de dire, c'est comme si on comparait, quand on achète un téléphone portable, si on compare le prix du téléphone plus le prix de l'abonnement avec le prix du téléphone d'un autre. Donc voilà, c'est ça, on entend beaucoup de choses aussi, de fausses idées. Dans les chiffres, on entend plein de chiffres, mais ils sont calculés de façon différente et ils prennent en compte différentes choses. Après, pour rebondir par rapport au reportage, là, effectivement, les prairies, on l'a dit aussi, vous l'avez dit aussi, Gilles Davot, stockent du carbone. Et ça, c'est un point. Voilà, il y a des effets négatifs, les émissions de méthane, mais il y a aussi des points positifs, et notamment de l'élevage à l'herbe et des prairies naturelles. Et les prairies naturelles, donc, qui ne sont pas retournées, sont des puits de carbone et stockent à peu près 500 à 1200 kilos de carbone par hectare et par an. Donc, ça contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et de plus en plus, le développement des haies et des paysages contribue aussi à diminuer. On a un chiffre qu'on a réussi à peu près à diminuer de 30% les émissions de gaz à effet de serre en jouant justement sur l'utilisation des prairies, des haies, etc. Une partie des travaux de l'INRA vont aussi dans ce sens de voir comment diminuer ces gaz à effet de serre et comment augmenter la captation du carbone en jouant sur les prairies, une prairie naturelle ou pas, et puis après en jouant sur la composition des prairies, etc., et l'alimentation des animaux.
Et à l'INRA, vous faites quand même ce constat qu'aujourd'hui, la consommation de la viande est trop importante à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde.
Oui, voilà, tout dépend où on se place. Effectivement, dans les pays riches, dans les pays développés, on pourrait consommer moins. Par contre, quand on parle à l'échelle de la planète, il faut augmenter la consommation au niveau mondial. Il y a un besoin de nourrir la planète et il y a, je crois, 11% encore de la population qui souffre de sous-nutrition. Donc voilà, tout dépend où on se place.
En sachant, Gilles Davot, je me tourne vers vous et puis Suzanne, vous allez réagir, c'est que ces protéines animales, on peut les remplacer par des protéines végétales qui ont les mêmes vertus ?
Alors, en fait, il faut juste regarder les alimentations populaires du monde, hein, qui, depuis qu'on a des sociétés sédentaires, pour ce qu'on connaît de l'histoire des aliments, font que on a commencé à avoir des animaux, à faire des cultures, et au fond, les animaux et les humains mangeaient les mêmes choses. Ce qui poussait dans les prairies, il y avait des légumineuses, des céréales, des herbacées, des graminées, et puis ça faisait les repas du quotidien, et de temps en temps, parce que ça demandait du temps, des efforts et des ressources d'élever des animaux. De temps en temps, on tuait l'animal, mais au quotidien, les humains, on le voit bien dans les couscous avec le blé et les pois chiches, dans le riz lentille des Indiens qui, quand même, fait que des enfants grandissent en mangeant du riz et des lentilles. Ça veut dire qu'ils ont des cheveux, des yeux, des muscles, enfin tout ce qu'il faut, et qui est le sens même de nos apports de protéines. Et puis, on trouve ça partout. Alors moi, je viens de Vendée, et une grande spécialité de la Vendée, c'est de tartiner. Et c'est comme ça qu'on nourrissait les enfants au début du XXe siècle. C'est de tartiner des haricots sur des tranches de pain.
Les fameuses céréales mougettes.
Et légumineuses.
Les mougettes, hein.
Voilà, pour des gens qui allaient devenir agriculteurs, maçons, qui faisaient de la maçonnerie pierre et qui faisaient de l'agriculture sans tracteur. Donc, il y avait des forces aussi. Ce qui est la grande crainte des gens quand on commence à pointer la viande, et des fois aussi sans nuance, parce que quand on dit 500 grammes ou 250 grammes, c'est quelle viande rouge? Est-ce que c'est les viandes les moins chères qui viennent d'Europe du Nord, qu'on trouve moins chères que la viande du producteur local et qui contribue à asphyxier les territoires? Ou est-ce que c'est une viande produite avec respect pour l'animal sur un territoire local, avec une complémentarité avec l'agriculture? On a vraiment, vraiment besoin d'aller décortiquer ce sujet au lieu d'imposer des visions ou des refus tout fait.
Ou de véhiculer des idées reçues, c'est ce que vous dites dans votre livre.
Les idées reçues sont terribles. J'ai encore posé plusieurs fois cette semaine, dans les interventions qui sont des formations, des cours de cuisine ou des interventions des fois devant les élus, pour aborder ce sujet, c'est demander à un public, quel qu'il soit, je l'ai même fait en Chine, où ils ont multiplié par 7 la consommation de viande, j'avais fait l'automne dernier, quand on demande à quoi servent les protéines, on a les mêmes réponses partout. Les protéines, c'est pour les muscles.
C'est pour être fort.
Ça nourrit les muscles. Alors, personne n'a envie que les enfants, ils aient pas de muscles. Donc tout le monde veut qu'il y ait de la viande tous les jours pour les enfants. Parce que on est encore dans la pensée magique, je mange des muscles pour avoir des muscles. C'est comme si on vous dit de manger de la cervelle pour avoir de la cervelle.
Vous parliez de la Chine, Gilles Davot. Je crois que depuis 2016, la Chine envisage de diviser par deux sa consommation de viande, si je ne m'abuse.
J'ai fait un débat avec un des responsables de nutrition du gouvernement et il disait que, en fait, ce qu'il cherchait à faire, c'était à reconnecter les petits-enfants avec les grands-mères. Parce que dans le modèle traditionnel chinois, il y a de la viande, mais en petite quantité émincée, ça va être 30-40 grammes dans un plat où les végétaux sont dominants, les légumes, les légumineuses, les céréales. On connaît les nouilles sautées, les riz garnis, tout ça. Et en fait, les enfants ont été captés par le modèle occidental, où la viande est quantitative et quotidienne. Nous, on a appris à faire dimanche tous les jours, et les Chinois nous suivent.
Suzanne Dahl, alors dans le rapport de Greenpeace, on trouve très bien expliqué, décortiqué cet état des lieux. La consommation moyenne de viande, alors en Europe de l'Ouest, 85 kilos de viande par an et par personne, 260 kilos de produits laitiers. Les trois quarts ou presque des terres agricoles européennes sont destinées à nourrir les animaux. Et donc la France serait le premier producteur de viande bovine en Europe et le premier consommateur de viande bovine en Europe.
Ce qu'on consomme le plus en termes de volume, c'est d'abord du cochon, ensuite de la volaille et après seulement du bœuf. Je voulais revenir simplement précédemment sur le chiffre qui a été mentionné, l'objectif fixé par la filière laitière sur ses émissions bas carbone. C'est des pratiques qui sont intéressantes et qui sont louables, mais on parle de 2 millions de tonnes d'équivalent carbone, alors que quand on regarde les émissions de la filière laitière, elles représentent 29 millions de tonnes d'équivalent carbone. Donc je vais peut-être paraître monomaniaque, mais j'en reviens à ce que je disais précédemment, qui est qu'on a besoin vraiment d'avoir cette réduction de la production pour des raisons climatiques. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, que ces mêmes vaches laitières apportent tout un tas de bénéfices, et notamment en termes de biodiversité, à travers les prairies. Et notamment la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Déjà, il y a tous ces légumes secs, mais il y a actuellement justement un plan qui est en cours de négociation, qui s'appelle le plan protéines végétales, et qui a pour objectif aussi de rendre autonome la France en termes de protéines végétales. Pour l'instant, l'angle porte surtout sur les protéines végétales destinées à l'alimentation animale. Il y a aussi un vrai enjeu à faire en sorte qu'on développe ces filières-là de protéines végétales pour l'alimentation humaine, ce qui correspond en fait aux légumes secs, à ces mougettes, lentilles et autres légumes secs.
Alors vous parliez des bienfaits de l'élevage pour les prairies, mais soyons bien clairs, Brigitte Picard, les fermes-usines, elles se développent, elles n'ont aucun bienfait, on est d'accord. Les élevages qui se cantonnent sous des hangars, ça aussi, ça pèse dans le volume de cet élevage, mais celui-ci n'a aucun effet bénéfique. Donc qu'en est-il de cet élevage-là? Il pose question aussi dans l'état des lieux que nous sommes en train de faire.
Il pose question, il a été développé pour des objectifs de produire plus, mais effectivement, les questions maintenant, c'est de voir comment améliorer la production de ces types de production intensive. Et c'est comme pour le reste, l'idée c'est d'aller vers quelque chose de plus acceptable sur le plan environnemental, bien-être animal et tous ces aspects-là.
Oui, Suzanne Dalle.
Pour rebondir là-dessus, il y a la question de l'amélioration des pratiques, mais aussi de l'installation et de la création de nouvelles structures. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on autorise de nouvelles structures de type ferme-usine ? Ça pose vraiment des questions. Et là aussi, il y a des choses à faire en matière d'accompagnement pour cesser d'ouvrir des structures type ferme-usine en France. Parce qu'effectivement, si on regarde par exemple une ferme de cochons classique en France, à l'installation, c'est un investissement d'1 million d'euros. Donc on comprend qu'effectivement, changer radicalement de modèle du jour au lendemain pour quelqu'un qui est déjà installé, c'est quelque chose qui est compliqué et qui ne s'envisage pas du jour au lendemain. Donc il y a aussi un vrai levier à travers la question de l'installation et des questions à se poser au moment des agrandissements ou installations de nouvelles fermes-usines.
En sachant que souvent les éleveurs s'endettent également et sont aussi coincés dans un système d'élevage ou d'agriculture traditionnelle. On n'a pas précisé quand même, et c'est important, parce que bien évidemment quand on parle de cette viande et du fait qu'il faudrait consommer moins mais mieux, c'est un secteur économique important aussi. En France, 800 000 personnes sont concernées par ce secteur de la viande, soit 3,2% de la population active. Et les entreprises de transformation des viandes représentent 25% des entreprises alimentaires. Donc on se doute aussi qu'il peut y avoir quelques craintes sur le plan des emplois. Tout simplement, Gilles Davot, oui.
Oui, c'est important en fait ce que vous dites, parce que le secteur économique, l'idée c'est que au moins ceux qui peuvent supporter déjà l'achat d'une viande plus chère, on pourra leur apprendre à mieux la préparer pour déjà que ce surcoût se fasse à coût constant dans le budget alimentaire de la maison, en apprenant à mieux les cuire, à mieux les associer, à les manger différemment. Mais aussi, cette notion de passer à des viandes de meilleure qualité, ça a des vrais impacts sur l'emploi. Quand vous avez des éleveurs porcins qui passent de 600 truies en industriel à 120 porcs sur paille, ou des éleveurs bovins qui étaient en production laitière industrielle qui passent en polyculture élevage et qui, sur la même surface, se trouvent 3 fois plus à travailler. Ils sont passés de 2 à 6. Ils produisent aussi des huiles de tournesol vierges sur l'exploitation. Ils produisent des céréales, ils produisent des volailles en plein air, etc. On sait que c'est plus riche en oméga 3. Enfin, on voit qu'on a des impacts globaux avec un vrai intérêt sur les territoires. Et au fond, quand on peut déjà, ça c'est une partie du sujet, mais quand on peut opter pour des viandes de meilleure qualité, on contribue non pas à réduire les emplois, mais au contraire à les développer dans des systèmes différents qui sont déjà beaucoup plus vertueux pour le climat. Et après, on peut poser la question aussi de la place de la viande en faisant cette éducation qui permet de faire de la place aux légumineuses.
Alors, il y a une question que vous le soulevez aussi, Gilles Davot, dans votre livre, c'est la question de l'eau. Vous dites l'eau est importante dans le débat. Il faut 10 à 12 fois plus d'eau et de surface agricole et de pétrole aussi pour produire des protéines bovines par rapport aux protéines végétales.
Oui, alors quand on est sur des systèmes herbagers, je pense que Brigitte pourra le confirmer, cette eau, c'est la pluie qui tombe et qui arrose les prairies. Mais quand on commence à être sur des systèmes en stabulation, des systèmes hors sol, et qu'il a fallu, même en période de canicule, pomper sur les nappes phréatiques pour cultiver du maïs, là ça compte beaucoup, parce que c'est là que les 12 fois plus de ressources, c'est pour les systèmes industriels et plus les systèmes hors sol, qu'on doit, même si c'est pas du soja, ça va être des tourteaux de tournesol, ça va être d'autres productions qui vont capter les ressources. Donc c'est des chiffres qui sont communément admis, 12 protéines végétales pour produire une protéine animale. Ça c'est des choses qu'on fait dans les 30 glorieuses quand on paye pas le prix du pétrole et qu'on n'a pas conscience des impacts. Maintenant, toutes ces questions sont interreliées, parce que il faut comprendre à quel point dans la grande population, dans tout le monde, et on en fait tous partie, il y a eu cette acquisition de la richesse au XXe siècle, et que la viande est un des symboles de cette richesse, et que il y a cette crainte quand on pointe, quand on dit il faut manger moins, il faut moins, il faut moins, il faut moins, il y a cette crainte à la fois du retour en arrière. Et peut-être qu'on pourrait poser le problème différemment. Est-ce qu'on pourrait pas faire une alimentation plus variée? En fait, la viande quotidienne tous les jours à pas cher, c'est une misère nutritionnelle, c'est une misère sensorielle, c'est une misère culinaire. Moi, ça m'arrive de me trouver dans des situations comme tout le monde, des associations, puis il y a eu un buffet qui a été préparé pour le soir, c'est que de la charcuterie premier prix, c'est que des fromages premier prix. Personne n'a posé la question. Et donc on voit à quel point il y a un modèle culturel à changer, ou en tout cas à proposer d'autres regards et puis des expériences qui font que « Ah ouais, c'est bon !» Ah, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec des haricots ou des lentilles. Et dès qu'on aborde le sujet sur le sens du plus, on voit tous les gens qui s'ouvrent. C'est assez merveilleux.
Brigitte Picard.
Je voulais revenir sur les chiffres, parce qu'on entend effectivement toujours les chiffres de l'efficacité protéique. Alors, soit on parle de bilan brut, en regardant ce qui est utilisé par les animaux et puis ce qui est produit au niveau viande, donc les végétaux qui sont consommés pour fournir de la viande. Donc il y a souvent le chiffre qui revient de, il faut entre 2 et 10 kilos de protéines végétales pour faire un kilo de protéines animales. Mais l'INRA met en avant qu'en fait, il faut tenir compte d'autres critères qui sont le fait que, d'une part, les protéines animales, elles ont une meilleure valeur nutritionnelle que les protéines végétales, c'est-à-dire qu'il faut en manger moins pour avoir les mêmes apports. C'est un critère. L'autre critère, c'est que, alors moi je parle surtout des ruminants, hein, c'est pas vrai pour toutes les viandes effectivement. Les ruminants consomment des protéines qui sont pas directement consommées par l'homme, c'est surtout vrai pour les ruminants, moins pour d'autres. Et ils utilisent aussi des surfaces qui seraient pas utilisables pour des cultures pour l'homme. Donc si on prend en compte ces différents critères et qu'on refait le calcul de l'efficience protéique, on n'arrive plus tout à fait sur les mêmes chiffres et on est plutôt à le fait de dire qu'une vache laitière va produire entre 0,8 et 2 kg de produits, soit lait, soit viande, à partir d'un kilo de protéines végétales. Donc là, on est sur un rendement positif. Et après, on peut même arriver sur des chiffres beaucoup plus élevés quand on est sur une conduite purement à l'herbe, avec des systèmes complètement extensifs et complètement herbes, et on peut arriver à des rapports supérieurs à 5. Et même, il y a des chiffres qui montrent qu'on est sur des rapports supérieurs à 10 dans des milieux plus difficiles, comme les milieux du Sud. Donc voilà, ces chiffres aussi, ça dépend si on parle de rendement brut ou de rendement qui prend en compte, de rendement net, qui prend en compte différents critères.
Et en sachant que malgré tout, le constat que vous faites tous, c'est quand même qu'on a trop d'apports de protéines animales dans notre alimentation au quotidien.
Ouais. Ce qui est préconisé, c'est d'avoir à peu près 50-50 de végétal et animal. Actuellement, c'est vrai qu'en France, on est plutôt à 2/3, 1/3, donc on peut réduire.
Il y a une marge. Suzanne Dalle.
Effectivement, si on regarde à l'échelle de l'Europe, il y a une partie des terres qui va être utilisée pour faire de l'herbe. Et il y a un vrai sens à utiliser cette herbe par des ruminants, puisque l'homme n'est pas capable de la consommer directement. En revanche, sur les terres dites arables, c'est les terres sur lesquelles on peut cultiver, on se rend compte que c'est tout de même 2/3 de ces terres-là qui sont destinées à l'alimentation animale. Là où on pourrait très bien y faire d'autres productions qui permettraient de faire du plus, qui permettraient de faire tous ces légumes secs sur lesquels on est déficitaire aujourd'hui.
Oui, Gilles Daveux.
Je voudrais juste ajouter qu'en fait, les apports en protéines, on sait que la viande, l'animal est très proche de nous. Quand on va manger un morceau de viande, on va avoir des apports en protéines très importants et avec des apports d'acides aminés qui correspondent absolument à nos besoins. Ça, c'est clair et net. Et il est vrai que les protéines végétales, il faudrait en manger des quantités très importantes pour avoir les apports, mais ça n'a pas de sens puisque, en fait, on n'a pas la capacité de digérer 200 grammes de céréales et 60 grammes de légumineuses dans un repas. Et c'est pas comme ça que ça se passe dans les cuisines du monde. Et ça nous bouscule parce que quand on commence à dire il faudrait 50 grammes ou 46 ou 30, la question elle est très simple. Est-ce que c'est généralisable à 10 milliards d'êtres humains? Et la réponse est non. Donc on est vraiment mis au défi de se demander si ça a du sens de poursuivre une analyse quantitative des apports de protéines. Là encore, hors sol, c'est-à-dire qui ne tient pas compte des terres disponibles, de la pression démographique, de l'égalité de tous devant les ressources. Ou alors, on trouve ça normal que les pays occidentaux, les autres, tant pis.
Gilles Daveux, vous allez nous confier votre choix musical, si vous le voulez bien. Raoul Midon.
Ah oui, un guitariste magnifique. Un peu le Stevie Wonder, c'est-à-dire c'est un musicien aveugle, avec un funk incroyable. Excellent chanteur. Ain't happened yet.
Will I get up every morning thinking today might be a day when my landlord starts a-calling and my luck's about to change and all these bills that ain't been paid I can't forget.
Those I can't forget.
It ain't happened yet. I keep filling out the papers, I keep waiting by the phone. When Ed McMahon comes a-knocking, I'll be sure to be at home. It'll be like Christmas in July when I cash the check.
When I cash the check.
It ain't happened yet.
Oh, no. Ain't happened yet.
But I'm feeling optimistic. I packed my bags and got my ticket. For when my ship comes rolling in, I guess I'll be alright till then.
Yeah, 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 yeah.
Oh, yeah. It ain't happened yet. I've been standing at the station, even got on my Sunday best, and I got my reservation, I'm waiting on that Good Life Express, and I can't wait to get out from under all this debt. It ain't happened yet. You say that love is transcendental, and that money just can't buy, that my problem's purely mental, and that true love will survive. Well, excuse me, but I place another bet.
Et c'est la suite de notre émission de Cause à Effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui à notre rapport à la viande, à sa consommation idéale, possible peut-être, afin de préserver la santé de la planète et celle de ses habitants, de la terre à l'assiette. La viande est-elle climato-compatible? C'est la question que nous posons aujourd'hui à nos invités. Avec nous, toujours Suzanne Dalle, chargée de campagne agriculture chez Greenpeace France. Et je rappelle que vous êtes co-auteur du rapport Mordu de viande, l'Europe alimente la crise climatique par son addiction au soja. Gilles Davaux, formateur, auteur et conférencier, donc spécialiste de cuisine biologique et alternative. Et je cite votre livre, Manger moins et mieux de viande, c'est paru chez Actes Sud avec les éditions Keizen. Et Brigitte Picard, directrice de recherche à l'unité mixte de recherche sur les herbivores de l'INRA. Et vous êtes co-auteur du livre La viande de l'élevage à l'assiette, édité aux presses universitaires Blaise Pascal. Nous poursuivons cette discussion ensemble juste après notre revue d'info environnement. Et parmi les nouvelles glanées sur le front de l'environnement, celles concernant un pesticide toxique qui s'attaque notamment aux QI des enfants. Sous la plume de la journaliste Stéphane Aurel du journal Le Monde, c'est l'histoire du chlorpyrifos qui nous est révélée et de ses dangers ignorés pour ne pas dire camouflés. Un insecticide qui existe depuis un demi-siècle, toujours autorisé dans de nombreux pays malgré des études scientifiques accablantes. D'abord pulvérisé sur les cultures pour éliminer pucerons ou chenilles, le chlorpyrifos se retrouve sous forme de traces dans les oranges, les pommes, la laitue, l'urine des enfants, le cordon ombilical des femmes enceintes. 8 pays européens n'autorisent pas ou plus le chlorpyrifos pour un usage agricole et depuis 2016, la France ne l'autorise que pour les épinards. Cette famille de pesticides volerait en moyenne 2,5 points de quotient intellectuel à chaque enfant européen. Mais son processus de renouvellement dans l'Union européenne arrive à son terme. Et selon la journaliste, les éléments scientifiques sont si accablants que la Commission européenne s'apprêterait à proposer son retrait du marché. L'article pointe aussi du doigt les dysfonctionnements des évaluations et la lenteur pour évaluer les données qui, plus est, étaient erronées du fabricant. Il fallut attendre plus de 20 ans. Reste en tout cas aujourd'hui une inquiétude. Qu'en sera-t-il du chlorpyrifos méthyle pour lequel la Commission juge les données pas aussi claires, à lire sans tarder sur lemonde.fr et à voir une photo spectaculaire qui fait l'info, celle de la fonte de la banquise au Groenland, conséquence du réchauffement climatique immortalisé par le cliché du scientifique danois Stephen Olsen et qui en révèle la gravité inhabituelle. Direction notre site pour la découvrir. Et la palme du moins de cette semaine, bien évidemment, on ne l'oublie pas, la palme du moins, eh bien, c'est la France qui la remporte, championne d'Europe des abandons d'animaux. Avec 100 000 animaux abandonnés chaque année, dont 60 000 durant l'été, la France détient ce triste record. À l'aube des vacances d'été, une nouvelle campagne est lancée par la fondation 30 millions d'amis. Et le plus de la semaine revient à un homme, Daniel Cueff, le maire du petit village breton de Langouette. En 20 ans, il a transformé le lieu en un village de l'après-pétrole. Aventure de cet élu qui fait émerger un territoire 100% écologique, c'est à lire sur lemonde.fr l'article d'Eléa Pommier.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, est-ce qu'une de ces informations vous interpelle ou alors une autre peut-être dont je n'ai pas parlé et dont vous voudriez parler aujourd'hui ?
Bon, juste une petite résonance aussi sur la façon dont on peut réagir, par exemple, à l'information sur les pesticides. pour avoir l'habitude d'intervenir devant des cuisiniers qui nourrissent des enfants dans des cantines, c'est des centaines de milliers, voire en une journée de formation, devant nous, on a 1 million de repas par an. Et en fait, si on arrive en disant, vous savez, les pesticides, vous savez, le glyphosate, vous savez, ah, c'est pas bien, non, faut manger bio. S'ils commencent à dire ça, c'est pas possible d'arriver, je vais avoir de la défiance, je vais avoir de la méfiance sur le bio, c'est pour les bobos, c'est trop cher, c'est pas pour nous, on n'a pas les moyens, je vais avoir un rempart de défiance. Mais par contre, quand je leur demande, ce serait quoi bien manger pour vous, j'aurai forcément des produits sains. Personne dit, je veux du glyphosate dans mon assiette. Et quand on peut leur montrer qu'avec des produits achetés peut-être plus chers, on a fait des cuisines très économiques parce que justement on a fait de la place à des protéines végétales, tout d'un coup, on a les moyens de se passer des pesticides.
Ouais, ce que vous nous rappelez, Gilles Davo, c'est que ces discussions sont difficiles, le débat est difficile, que ce soit pour la viande ou pour les questions bio, il y a encore peut-être des barrières mentales, parce que chacun a le droit de consommer ce qu'il a envie de consommer. En tout cas, il y a une totale liberté quand même pour chaque citoyen, mais il y a forcément des inquiétudes, mais ces barrières systématiques.
Hein. C'est-à-dire, quand vous prenez la population, bientôt 70 millions de Français, tout le monde a des habitudes alimentaires depuis l'enfance et il a bien le droit de les avoir. Suivant le milieu, suivant tout un tas de traditions, ses propres capacités psycho-émotionnelles, tout ce qui est l'expérience qui a été vécue sur la ferme d'un tonton ou dans des HLM, dans des conditions qui peuvent être extrêmement chaleureuses avec de la nourriture industrielle. Et la vraie question, c'est comment on peut proposer du plus qualitatif plutôt que de dire, bah non, ça c'est pas bien. Je connais un professeur de nutrition, le professeur Le Cerf, il dit, accuser l'assiette des gens, c'est accuser les gens. Là, ça nous met au défi, en effet, de penser que l'alimentation, c'est de la culture, et que pour avoir des solutions très concrètes et très opérationnelles à ces questions de changement climatique, d'épuisement, de l'humus, de problèmes des ressources en eau, de biodiversité, d'effondrement, etc., ça se traduit tous les jours dans nos vies, et pour accompagner tous les milieux en fonction de leurs propres habitudes, on a besoin de discours inclusifs, positifs et d'une éducation, quoi.
Alors, les solutions que vous nous proposez aujourd'hui les uns les autres, peut-être, on commence par vous, Suzanne Dahl, puisque ce rapport Greenpeace a non seulement fait un état des lieux, mais a également fait des propositions et des solutions possibles à l'échelle de chacun et aussi à l'échelle de nos gouvernants, voire de l'Europe.
Alors déjà, la première solution, c'est à travers sa propre assiette. Gilles Davo vient justement d'en parler. Il y a effectivement un rôle à l'échelle des individus. Et là, on est vraiment dans des logiques aussi de changement de mentalité. Je ne vais pas passer trop de temps dessus puisque je pense que vous en parlerez mieux que moi, Gilles. L'autre aspect, donc on parle beaucoup des consommateurs, on a aussi parlé des éleveurs et on montre souvent aussi du doigt les éleveurs, mais au final on oublie quand même un maillon de la chaîne au milieu de tout ça, qui sont quand même les acteurs agro-industriels. Et ils jouent un rôle aussi extrêmement important dans la manière dont les filières d'élevage se développent et dans l'industrialisation de l'élevage, que ce soit en France ou dans le monde. Et là aussi, il y a un vrai enjeu à montrer leur responsabilité dans ce système-là. Si on regarde par exemple le soja, on a également publié un autre rapport il y a une semaine qui montre que toutes les entreprises qui s'étaient engagées sur des objectifs zéro déforestation d'ici 2020 seront incapables de tenir leurs engagements. Et ça pose aussi question et on se rend bien compte que les entreprises n'étant pas capables d'avancer sur ces problématiques-là, on a aussi besoin de légiférer et que l'État prenne ses responsabilités et qu'ils mettent en place des politiques qui permettent réellement une transition et d'accompagner la production vers ce changement-là. Parce que ce n'est pas un changement qui pourra s'effectuer tout seul et ça serait injuste, qui plus est, de faire porter la responsabilité du changement uniquement sur le maillon des éleveurs. Pour cette transition-là, il y a un outil qui est à notre disposition, qui est celui de la politique agricole commune, qui est une politique extrêmement structurante pour l'agriculture en Europe. Et elle est justement en cours de négociation actuellement. Alors c'est un peu mis en pause avec les élections au Parlement européen. Mais les négociations sur le cadre national ont également commencé. Et il y a un vrai enjeu à faire en sorte de pouvoir avoir une carotte qui soit réellement intéressante dans cette politique agricole commune, plutôt que d'utiliser le bâton. La politique agricole commune, ça doit servir servir à la transition et pas au maintien d'un modèle industriel dont on voit clairement les limites.
Donc que l'on aille plus facilement vers des aides pour ou l'agriculture bio, l'agriculture végétale ou les petits éleveurs, vous dites que ces grandes structures qui aujourd'hui peuvent potentiellement poser problème, en tout cas sur ces questions-là.
Exactement, vous parliez des 800 000 emplois dans la filière, mais si on regarde à l'échelle européenne, on se rend aussi compte qu'entre 2007 et 2013, on a perdu 3 millions de fermes d'élevage. Ça pose aussi vraiment en question. Et si on veut pouvoir maintenir un tissu rural vivant, si on veut pouvoir maintenir des éleveurs sur le territoire et le faire d'une manière écologique, il faut absolument avoir un changement radical de la politique agricole commune et de toutes les autres politiques agricoles.
Alors écoutons-les justement, ces éleveurs. Reportage diffusé sur France Inter le 11 septembre 2018.
Aujourd'hui, avec cette baisse de consommation, on a l'impression que les gens y croient plus beaucoup, quoi. Dans les campagnes, je vends beaucoup de reproducteurs et on voit que les gens, ils n'y croient plus, quoi. Mais on sent une désespérance, là, de plus en plus. Pour les plus jeunes, ça va être très, très compliqué de s'adapter.
À seulement 25 ans, Quentin Dupuis vient de reprendre de son côté l'exploitation familiale de vaches partenaises dans les Deux-Sèvres sans savoir de quoi sera fait l'avenir.
Bah, c'est vrai que les années devant nous sont pas évidentes avec tout ce qui est les végans, les anti-viandes qui font que de nous casser, entre guillemets, quoi. Mais bon, nous, éleveurs, ce qu'on souhaite, c'est on est prêt à faire du bon, on est prêt à faire ce qu'il faut, mais il faut qu'à l'autre bout, qu'on soit rémunéré à notre juste valeur.
Seuls les labels de prestige ou bio permettraient aux éleveurs de ne plus vendre à perte. L'avenir n'est pas si simple que cela, estime Dominique Talon, éleveur en Vendée.
Bon, j'ai rien contre les bio, mais enfin, attendez, tout le monde ne mangera pas que du bio. Hein. Et si tout le monde se met dans le bio, les prix vont baisser, hein, systématiquement. Ils reviendront au prix du conventionnel.
Face à ce casse-tête, les éleveurs attendent plus que jamais que les industriels et la grande distribution adoptent enfin des prix rémunérateurs pour leur production.
Brigitte Picard, ce sont des questions justement que vous traitez à l'INRA.
C'est effectivement une très grande question. Sur l'aspect viande, justement, le problème, c'est qu'actuellement, enfin le problème entre guillemets, mais actuellement, les éleveurs sont rémunérés sur la qualité de la carcasse. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais la carcasse à l'abattoir, on va juger la carcasse sur ce qu'on appelle la conformation et l'engraissement, c'est-à-dire la masse musculaire et le gras. Mais pas du tout sur la qualité de la viande. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment arriver à changer, parce que les éleveurs travaillent le mieux possible pour faire une viande de bonne qualité. Mais comme ils sont rémunérés pour l'instant que sur la conformation ou le gras de la carcasse, ça va pas jusqu'au bout. Donc les solutions, ça serait d'arriver à répartir une valeur ajoutée qui revienne aussi aux éleveurs et qui aille jusqu'aux éleveurs. Donc ce qu'on veut à l'avenir, c'est faire une viande de bonne qualité sanitaire, qui a du goût, c'est ce qu'on appelle la qualité sensorielle. Alors pour la viande, c'est la tendreté, la juteosité, le goût, mais aussi la qualité nutritionnelle, la valeur santé, tout en étant sur des élevages respectueux de l'environnement, plutôt des élevages agroécologiques, on est d'accord, et respectueux du bien-être animal, qui est aussi une très bonne gestion des effluents pour limiter l'utilisation des engrais. Donc les solutions, c'est tout ça. Donc c'est par rapport aux éleveurs, mais par rapport aux consommateurs aussi. Et le consommateur, dans tout ça, il a du mal à s'y retrouver, comme on a dit, hein, parce qu'il faut qu'il mange plutôt du végétal, plutôt de l'animal. Et je pense que là, il y a un manque de communication. Il faudrait qu'on arrive à faire passer plus de faits, de chiffres objectifs, pour que le consommateur arrive à s'y repérer et arrive à refaire le lien aussi entre l'élevage, qu'est-ce que c'est vraiment l'élevage, quels sont les points négatifs, les points positifs et le bilan qu'on peut en faire, et la consommation de la viande, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qui peut être négatif, qu'est-ce qui peut être positif, et pouvoir se faire une idée pour faire ses choix. Est-ce que je mange de la viande? Beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que j'en mange plus? Et c'est vrai que souvent dans les médias, on entend des choses qui... Et notamment les jeunes peuvent se laisser influencer par tout ce qu'ils entendent et pas faire leur choix objectif par manque de connaissances.
Et manque d'informations.
Et manque d'informations.
Gilles Davoux.
Alors moi, ce que je retiens dans l'interview, le reportage là, c'est cette crainte effectivement, alors que effectivement certains éleveurs basculent dans des systèmes où ils gagnent mieux leur vie, avec plus d'emplois salariés sur des mêmes surfaces, et se rendent compte que ce serait une, comme ça a été dit, une solution possible.
Donc une reconversion.
Voilà, ce discours qui dit effectivement que bah oui, mais on est obligé de continuer comme ça parce que tout le monde ne pourra pas manger bio. Ça, c'est la première analyse, je dirais au premier degré, hein, c'est plus cher, donc c'est pas accessible.
Mais si on mange moins de viande, si on diminue d'un côté, finalement le budget alimentaire reste le même.
Voilà, les préconisations de Greenpeace, par exemple, sont de baisser la consommation de viande. C'est pas que Greenpeace, c'est les COP 21, nous l'ont dit, les COP régulièrement le disent.
Les médecins aussi, en général.
Et les médecins aussi, parce qu'on voit que c'est très transversal comme enjeu. Hein. C'est sanitaire, environnemental, économique, c'est l'avenir de l'agriculture, des terroirs, de la biodiversité, tout est lié, en fait. La question, c'est est-ce qu'effectivement la qualité n'est pas accessible ? Je vais revenir à la question de la restauration collective et des cantines, parce que c'est très symbolique, parce que c'est l'alimentation de tous les jours. C'est nourrir les gens sur leur lieu de vie, c'est comme à la maison, petit budget, pas beaucoup de temps, 3 personnes pour cuisiner pour 500 ou 600. Donc les contraintes sont très fortes et sont très similaires aux contraintes de tout le monde. Et quand je dis petit budget, j'ai entendu des choses cette semaine pour des collèges, hein, 40 de matières premières. Donc c'est très compliqué, effectivement. Alors quand on veut mettre les gens en mouvement, justement pour que les centaines de milliers de repas qu'ils font par an évoluent dans le sens d'une qualité et aient des répercussions sur l'agriculture, on commence par questionner la façon dont ils travaillent la viande. Et ça concernerait tout le monde. Tous les gens qui cuisinent de la viande, qui achètent dans une boucherie un rôti, ont appris à cuire des rôtis à 180 degrés. Quand c'est des viandes blanches, par exemple, ou des viandes rouges, en fait, on va avoir à peu près les mêmes effets, mais c'est très très patent sur les viandes blanches. On va avoir jusqu'à 35, 40% de perte du poids en cuisson. Simplement, en apprenant à nos cuisiniers de collectivité à baisser la température des fours, non seulement les fours consomment beaucoup, beaucoup moins que 2 fois moins d'énergie, quand on met à 100 degrés au lieu de 180, il n'y a pas de projection de graisse, donc il n'y aura pas de produits lessiviels, et au lieu de perdre 35% pour un rôti, je vous montrerai des photos, si vous voulez.
On les mettra sur le site.
Oui, vous pouvez les mettre sur le site. Vous verrez une viande cuite à 180 et une autre cuite à 100, et vous verrez la différence, il y a 20% de différence. Quand les cuisiniers mettent ça en pratique, ils nous disent... moi, pour mes 500 élèves, avant, j'achetais 58 kilos. Maintenant, j'achète plus que 48. Et j'ai la même quantité dans l'assiette. Vous voyez que manger moins de viande, c'est déjà des marges de progression majeures, parce que cette différence peut être investie pour des viandes labelles, des élevages extensifs, et d'aller peu à peu aussi bouger un peu la représentation de tout le monde. Ce qui est très intéressant dans les cantines, c'est que quand on commence à faire du bio, quand on commence à faire de la qualité, et cette éducation à manger aussi des légumineuses, c'est pas pour les bobos ou pour les riches, c'est pour tous. Donc les enjeux sont très forts là.
Et la viande de synthèse dont on parle notamment, vous en pensez quoi les uns les autres, Brigitte Picard?
Je veux bien en parler. La viande de synthèse, notamment la viande in vitro, c'est en fait des cellules musculaires. Et pour l'instant, en laboratoire, on sait cultiver des cellules musculaires. Mais en fait, on arrive à faire du muscle dans des boîtes de pétri. Et quand on dit du muscle, c'est pas du tout du muscle. En fait, c'est une couche de cellules musculaires. Et il faut savoir que pour que ces cellules musculaires poussent, qu'elles grossissent, qu'elles se multiplient, il faut leur donner à manger. Donc ce qu'on leur donne à manger, c'est des facteurs de croissance, des hormones. En plus, il faut qu'elles résistent, sinon elles vont mourir dans les conditions de culture en boîte. Donc il faut qu'on leur rajoute des fongicides, tout un tas de choses. C'est toutes des choses qu'on ne veut pas voir en élevage. Et pour produire tout ça, le bilan carbone aussi, parce que pour produire en grande quantité, on en est loin. Donc pour l'instant, on est loin d'arriver à nourrir la planète et même à nourrir quelques personnes comme ça. Et le premier steak haché qui a été fait in vitro, je crois qu'il a coûté 200 000 dollars. Donc ça coûte très 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 cher et on ne sait pas encore. Donc certains y croient et travaillent là-dessus, mais c'est pas pour demain. Oui, il y a des problèmes technologiques, des verrous importants à lever. Et ça pose des problèmes sur l'environnement aussi.
Des prototypes qu'une collègue de Brigitte et Jocelyne Porcher expliquent très très bien cet enjeu. Il faut dire aussi que, c'est-à-dire si on ne fait rien aujourd'hui pour redonner, vraiment ouvrir un débat de fond sur le rapport homme-animal, la place de l'animal dans les territoires, la complémentarité absolument fondamentale entre l'élevage et l'agriculture, c'est-à-dire si on enlève l'élevage, l'agriculture s'effondre, la fertilité des sols s'effondre. Et donc on a besoin vraiment de réfléchir à ça, et les viandes de synthèse, c'est une façon de ne pas traiter le problème, et de ne pas questionner, et d'aller vers une perte fondamentale de ce qui a construit notre identité, notre rapport à l'animal aussi, ce que les animaux sont devenus aussi. Et au fond, derrière tout ça, il y a la superposition sur l'enjeu climatique dont on sait qu'il appelle des solutions très très urgentes, mais vraiment urgentes, et qui sont prises en charge pour tous et par tous. Il y a la superposition sur, par exemple, cette notion de manger moins de viande pour sauvegarder le climat, les sols, les systèmes agricoles. Il y a une confusion avec le débat moral sur est-ce qu'il faut manger ou pas de la viande. C'est deux débats qui sont confondus. Et en fait, c'est très préjudiciable, cette confusion, parce que il faut ouvrir. Moi, je suis absolument OK pour ouvrir le débat sur pourquoi, comment...
Le bien-être animal, notre relation avec les animaux, la mort.
Et pourquoi ou pas manger de la viande, est-ce qu'on, et comment on assume ou pas cette question-là. Mais tant qu'on en fait un oukase moral de traiter ce sujet qui est celui de la transition écologique en superposant dessus la question morale, on freine en fait le changement des comportements, parce que les gens, bah, ça n'a pas de sens pour eux de dire « tu vas devenir vegan ».
La mort de l'animal,
vous
en parlez, hein, Gilles Davoud, dans votre livre.
La mort de l'animal, bah, c'est une façon accessible assez facilement, enfin, pour autant qu'on ait envie de le faire. Peut-être un jour, il y a encore quelques racines rurales, mais c'est possible aussi de se connecter avec des associations de producteurs ou des fermes d'éducation à l'environnement. Ou pourquoi ne pas aller faire soi-même l'expérience de ce que c'est que tuer une volaille. Quand on le fait, on comprend vraiment ce que c'est que le sens de la vie de l'animal. Et quand on mangera de la viande, on la respectera en la cuisant mieux, et on réservera à cet aliment exceptionnel, à une vie qui a été donnée, une place juste. Et la place de la viande dans nos sociétés depuis 50 ans, elle est fondamentalement injuste. C'est pour ça que c'est percevable de continuer les discours productivistes. C'est indécent, la place que la viande a pris. C'est indécent, pour reprendre les mots d'un collègue, les dégâts de l'élevage industriel. C'est indécent. Donc on a besoin de retrouver le sens de la vie. Et tuer un jour soi-même un poulet, c'est une expérience vraiment très, très, très transformatrice pour tous ceux qui le font.
Alors, avant de clore cette émission, je voudrais juste vous lire un passage d'un mail qu'une jeune agricultrice en Haute-Saône nous a envoyé dimanche dernier, sachant que nous allions traiter de ce sujet. Voici ce qu'elle nous dit en particulier. « Je suis jeune agricultrice en Haute-Saône et j'ai choisi d'élever des vaches allaitantes et des cochons noirs. Ainsi, je vends de la viande en vente directe. Et pour plusieurs raisons, j'estime que mon choix de vie est un acte écologique engagé. Ma motivation première était de produire un aliment bon pour les gens et je voulais aussi travailler avec les animaux, notion d'élevage au sens de Jocelyne Porcher. J'élève donc mes animaux selon les principes de l'agriculture bio, les vaches et les cochons sont en plein air pendant les saisons propices. L'écologie est également une autre grande motivation car j'espère ainsi participer au maintien de la biodiversité et par exemple l'élevage contribue à maintenir des espaces prairiaux riches en diversité et des paysages ouverts qui participent à mon avis à la beauté de nos paysages. Je ne condamne pas les gens qui rejettent la viande car il me semble que l'extrême intensification des entreprises productrices de viande, on ne peut plus parler d'élevage, peut pousser à des réactions extrêmes en réaction. Néanmoins, je crois qu'une voie du milieu est possible où l'homme élevant des animaux vive en harmonie dans l'écosystème auquel il appartient. » Voilà, c'est ce mail envoyé par cette jeune agricultrice et tout cela, bien évidemment, nous renvoie à ce débat et à cette question, hein, la viande, qui suscite des crispations, mais dont on a... tenter aujourd'hui de brosser un peu un état des lieux et sans passions excessives. J'espère qu'on aura rempli notre rôle. Merci à tous les trois. Suzanne Dalle, je rappelle le titre du rapport Greenpeace, « Mordu de viande, l'Europe alimente la crise climatique par son addiction au soja ». Gilles Davoud, « Mangez moins et mieux de viande », un livre coédité par Kaizen et Actes Sud. Brigitte Picard, co-auteur du livre « La viande de l'élevage à l'assiette », édité aux presses universitaires Blaise Pascal. Bien sûr, toutes ces informations et autres, hein, la revue de Web Environnement, les liens sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Fait. Téléchargement, réécoute à votre disposition, notre Twitter, hashtag DCAEffet ou alors notre page Facebook. Dimanche prochain, nous parlerons notamment du premier rapport du Haut Conseil pour le Climat et nous serons avec sa présidente Corinne Lequéré et il y aura également avec nous Maxime de Rostolan. Dans un instant, suite de vos programmes sur France Culture, restez bien à l'écoute, Être et Savoir et Louise Touré.